Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison des Héros anonymes. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est à nouveau un plaisir de vous retrouver et de vous présenter des personnes qui font une grande différence dans le quotidien de centaines, voire de milliers de personnes. Au moment de la première diffusion de cet épisode, nous sommes déjà à la deuxième semaine d'école pour de nombreux jeunes qui doivent s'adapter à de nouveaux enseignants, de nouveaux apprentissages, une nouvelle classe et parfois même une nouvelle école. Certains, toutefois, ont l'âge d'être à l'école, mais n'y vont plus depuis quelques années. On les appelle souvent les décrocheurs. Or, souvent, ces jeunes n'ont pas seulement décroché de l'école, mais aussi de la société en général. C'est pourquoi l'école de rue « Je raccroche » à Rimouski enseigne différemment à ceux pour qui le programme scolaire habituel est moins adapté. J'aurai le plaisir de rencontrer en deuxième bloc le directeur général et fondateur de Je raccroche Rimouski, Michel Lessard. Tout d'abord, je discuterai avec Mélanie Gauthier, directrice générale de Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges, qui soutient les personnes qui vivent une déficience intellectuelle ou physique ou encore qui se situent dans le spectre de l'autisme. En plus des programmes d'aide, on souhaite sensibiliser davantage la communauté à ce que vivent ces personnes, leurs enjeux, et faire voir comment la différence contribue à une société diversifiée et encore plus inclusive. Après la pause, Mélanie Gauthier de Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. Notre première invitée au Héros anonyme cette semaine s'appelle Mélanie Gauthier. Elle est la directrice générale de Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. On va prendre le tour vraiment de bien expliquer ce que fait l'organisme et ses particularités parce qu'il y a d'autres organismes qui portent le nom Parrainage civique, mais celui de Vaudreuil-Soulanges là, couvre assez large là, dans le soutien, l'aide, l'intégration des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, physique ou encore dans le spectre de l'autisme. Tout d'abord, bienvenue Mélanie.
Bien, merci beaucoup, Chantal.
Je crois que vous connaissiez déjà par personne interposée Canalem.
Absolument. Ma fille a eu la chance de faire un stage ici ou de travailler l'été dernier, oui. Puis en apprendre un petit peu plus. Donc, elle nous a grandement sollicité à écouter et à comprendre un peu les valeurs de Canalem.
Oui. Bien, en fait, on se situe évidemment dans l'inclusion. Et c'est important pour nous de faire en sorte que chacun de nos animateurs, nos partenaires, vive une des facettes de l'inclusion. Peut-être nous parler un peu des défis que vit Anaïs.
Anaïs vit avec une paralysie cérébrale, donc qui est tout à fait physique et non intellectuelle. Donc, elle vit des défis d'ordre physique tous les jours, un peu partout, dans son quotidien, dans son apprentissage au niveau des études et puis dans son volet social. Aussi, donc elle a des défis à tous les égards, mais de type physique.
Oui. Bien, c'est sûr qu'au niveau intellectuel, notre recherchiste Catherine Bourderon, qui est attitrée à notre émission, a eu l'occasion de collaborer avec Anaïs et a tellement apprécié son travail qu'elle a eu l'occasion là, d'en dire un bon mot à la première chaîne. Et je crois qu'Anaïs y œuvre maintenant à Radio-Canada.
En fait, elle a fait un stage. Oui. Puis pour l'instant, elle est retournée à l'université. Elle fait des petits contrats ici et là. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qu'elle aimerait beaucoup retourner vers la première chaîne.
Oui, excellent. Bien, c'est en fait un peu notre mission d'intégration aussi à Canalem parce qu'on aime être cohérent avec les propos que l'on tient en onde. Et Mélanie, est-ce que le fait d'être mère d'une jeune femme qui est atteinte d'une d'une, ben, en fait, une déficience physique. Comment ça vous a préparé au travail que vous avez maintenant?
En fait, c'est directement relié parce que avant d'avoir Anaïs dans ma vie, j'étais éducatrice à la garderie, donc pas du tout dans le domaine. Quand j'ai Anaïs est arrivée dans ma vie, donc on a été témoins de différentes lacunes et difficultés. Puis je me suis dit, j'aimerais ça faire partie de la solution. Donc, je suis retournée aux études à 30 ans avec trois enfants pour finalement m'aligner dans un domaine qui est l'éducation spécialisée pour faire partie du changement.
Vous avez vraiment pris ça à bras-le-corps pour...
Tout à fait, tout à fait.
Parce que j'imagine, comme éducatrice en garderie, habituellement, est-ce que les profils, est-ce qu'on vise la mixité? On est souvent plus dans des jeunes qui ne vivent pas avec...
Exactement, neurotypique. Donc, moi, j'ai visé l'intégration pour ma fille à la garderie où est-ce que je travaillais. Ce n'était pas toujours facile. Oui, de plus en plus maintenant, on voit des jeunes qui sont intégrés, mais c'est un travail de tous les jours pour les parents pour s'assurer vraiment d'une bonne intégration dans un milieu qui dit « normal
». Et c'est un peu, je vois dans la mission de l'organisme, dans les services, que oui, il y a tout le volet d'aide et de soutien aux personnes qui sont qui doivent composer avec ces défis, mais aussi tout le volet intégration qui vous tient à cœur.
Tout à fait. Nous, la mission première, c'est vraiment l'intégration et l'inclusion dans chacune de nos activités. Tout dépendant de l'activité, on s'assure toujours qu'il y a des gens à l'extérieur, puis faire la promotion aussi, et un peu d'éducation face à ça, parce que c'est ça, l'intégration, c'est de faire l'éducation des gens pour leur montrer qu'on est capable de faire toutes sortes de choses malgré le fait qu'on ait un handicap.
Oui. On va pousser un peu chacun de ces axes-là. Donc, peut-être c'est ça, parrainage civique, Vaudreuil-Soulanges. Moi, c'était pas la première fois que j'entendais le mot parrainage civique. Je sais, entre autres, qu'il y a certaines personnalités qui ont appuyé ce type d'organisation-là, mais j'ai appris que vous étiez au-delà du jumelage.
Absolument. Donc, dans Vaudreuil-Soulanges, on dessert toute la population de 4 à 21 ans et de 18 ans et plus. Donc, on a des services qui se chevauchent avec toute la clientèle déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme sur différents paliers. Donc, on fait, oui, le loisir. On fait aussi des services d'activité de jour qui sont le 21 ans et plus après l'école et puis tout le volet enfant. Donc, on est vraiment, oui, le jumelage, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir des bénévoles. Donc, on s'est retourné un peu vers les services qui sont un peu différents, mais qui desservent la clientèle toujours dans un but d'inclusion et d'intégration.
Comment s'est fait cette évolution-là? Est-ce que, vu que vous portez le nom parrainage civique, ça a d'abord démarré avec des services de jumelage?
En fait, ça l'a démarré il y a quand même plus de 40 ans. Oui, un peu avec le jumelage, mais ça a été vraiment difficile tout au long des années de faire ce type de jumelage-là. Donc, ça s'est fait, mais il a fallu greffer certaines autres activités pour arriver financièrement à offrir des services. Donc, ça a toujours été plutôt difficile dans Vaudreuil-Soulanges d'avoir un grand bassin de bénévoles pour le jumelage, mais toujours soutenu avec toutes les autres activités qu'il y a autour.
Puis juste pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça implique, un jumelage?
Un jumelage, c'est pas compliqué, c'est 3 heures par mois qu'on demande à nos jumelés. Donc, 3 heures, soit téléphone, souvent aller voir un film, aller au restaurant. Donc, 3 heures, c'est très rapide, mais c'est seulement ça qu'on demande, 3 heures d'amitié. C'est toujours dans le but de l'amitié. On ne veut pas que ça soit parent-enfant. On ne veut pas qu'il y ait une certaine échelle dans cette relation-là. On veut vraiment que ça soit 2 amis qui font des activités avec des intérêts communs.
J'aime bien comment vous l'amenez. Donc, quel type? Parce que 3 heures, on se dit, ben oui, ça se place bien dans un agenda. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'aller chercher des bénévoles?
Je pense que de notre côté de Vaudreuil-Soulanges, on est maintenant dans un volet un peu plus multiculturel. Donc, il y a un changement de culture dans la communauté. De plus, Vaudreuil-Soulanges est extrêmement grand comme territoire. Donc, on a un volet qui est un peu plus rural. Donc, il faut vraiment aller chercher notre monde différemment maintenant. Et puis, il y a tout l'aspect du français, de l'anglais, différentes langues maintenant qui s'ajoutent. Donc, il y a vraiment un développement de ce côté-là. Par contre, de notre côté, où est-ce que les gens apprennent le français très rapidement, puis là, ça devient de plus en plus facile. Mais on a plus de bénévoles ponctuels qu'il y a de bénévoles de parrainage-marrainage qui demandent un peu plus à long terme, parce que c'est ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment de laisser à long terme pour qu'il y ait une belle relation. Mm-hmm. Donc, on a des bénévoles ponctuels. Mais le bénévolat de type parrainage-marrainage est un peu plus difficile compte tenu du temps qu'on demande.
Quand vous parlez des langues, je me dis peut-être que c'est une belle occasion dans un contexte de relation amicale, on apporte un soutien, par exemple, à une personne qui a un handicap physique qui peut nous aider à pratiquer notre français.
Tout à fait. Tout à fait. On a même eu une dame qui est venue faire des cours de baladie, donc qui est arrivée un peu avec toute sa culture. On trouve ça super intéressant aussi. Les percussions, on a eu quelqu'un qui est venu faire des percussions. Donc, on utilise aussi ce côté-là pour assurer une espèce de mixité intéressante au niveau des cultures. On trouve ça super intéressant. Puis dans Vaudreuil-Soulanges, il y a quelque chose qui est mis de l'avant par rapport à la culture. Donc, on utilise tout ça pour en faire un beau jumelage avec nos services.
Bien, j'avais cru comprendre qu'il y avait eu plusieurs activités de médiation culturelle dans Vaudreuil-Soulanges.
Absolument. Vaudreuil-Soulanges est très, très... En fait, Vaudreuil-Dorion a un grand volet culturel. Donc, nous, à chaque année, on dépose des projets de médiation culturelle. Donc, on va en avoir un autre aussi à l'hiver avec des artistes de la région qui sont impliqués avec la clientèle, qui connaissent de plus en plus notre clientèle. Mais oui, on a au moins un projet par année de médiation culturelle, soit avec la ville, soit avec d'autres villes, parce que nous, on est dans Vaudreuil, mais souvent, on peut en avoir dans d'autres villes où est-ce qu'on va participer à des projets de ce type-là.
Mais là, on est vraiment dans l'inclusion. On est autant dans la médiation culturelle que dans la compréhension d'une différence avec le quotidien des personnes qui fréquentent Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. Okay. Est-ce qu'on peut faire un appel aux bénévoles s'il y a des gens qui sont
absolument,
de la région?
Absolument. Ouais. Donc, nous, on cherche vraiment des bénévoles de différents horizons pour s'assurer d'offrir le plus de services possibles ou de différences. Nous, ensemble, on se ressemble. C'est vraiment notre créneau maintenant. Donc, on essaie vraiment d'amener des activités qui sont pas nécessairement connues, mais qui vont faire que nos membres vont pouvoir découvrir différentes choses au travers de ça.
Donc, on a bien couvert, je crois, l'aspect jumelage. On va prendre le temps de comprendre mieux les autres volets. Donc, on parle, vous disiez qu'il y a des services qui se chevauchent, 4 à 21 ans, 18 ans et plus. Comment ça se répartit?
En fait, le 4 à 21 ans, on parle beaucoup de services, soit de répit, donc on offre du répit, mais aussi tout ce qui est le volet camp d'été.
Le répit, il est offert pour les parents?
Absolument. Ah, oui. Donc, les jeunes peuvent venir le samedi ou le dimanche. Ils ont des journées complètes de répit pour pouvoir justement offrir aux parents des activités, soit avec la fratrie ou justement les parents ensemble. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'installe tranquillement. C'est pas facile pour les parents. Le besoin est beaucoup plus en dodo en ce moment. On a besoin des nuits de répit, ce qui n'est pas offert chez nous pour le moment, mais le répit est quand même quelque chose d'essentiel pour nos parents. Donc, le 4-21 ans, on a beaucoup le répit. Et puis, par la suite, on a tout ce qui est, c'est ça, les camps d'été qui sont un peu plus spécialisés avec des ratios un peu plus réduits parce que la clientèle multi-handicapée. Donc, on accueille des jeunes avec des problématiques très importantes, des niveaux de soins très avancés. Donc, on a vraiment un camp très adapté à leurs besoins. Donc, on part du 4-21 ans. Puis, tout ce qui est service de surveillance, donc après l'école, avant l'école, les horaires au secondaire sont très différents du primaire. Donc, on offre un service qui est un peu comme un service de garde, mais pour les jeunes de 12 à 21 ans. Donc, ça, c'est un autre service qui est offert. Puis, le 18 ans, 18-21, c'est un peu la transition entre l'école et la vie active. Donc, on travaille un peu entre les deux. Donc, on fait de l'intégration des jeunes de 18 ans jusqu'à 21 ans pour éventuellement pouvoir entrer dans nos services qui sont 21 ans et plus.
Est-ce que pour certains d'entre eux qui seraient en mesure un jour d'aller habiter en appartement, est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres organismes pour les préparer à la prochaine étape?
En fait, les services sont plutôt offerts par le système public. Donc, c'est un peu plus de ce côté-là. Par contre, l'organisme en ce moment, puis je trouve ça bien qu'on en parle, est en restructuration pour savoir vers quoi on s'en va. Dans notre coin, il n'y a pas beaucoup d'appartements de type supervisé. Mm-hmm. Donc, on veut vraiment miser sur un type d'hébergement ou un milieu de vie, en fait, qu'on aimerait bien pouvoir développer par la suite pour nos différentes clientèles. Donc, ça existe plus ou moins ou plus limité dans les choix. Par contre, nous, c'est vers ça qu'on veut aller pour justement que les parents puissent avoir le choix et puissent rester dans la région aussi, parce que ça, c'est un autre enjeu. Mais vraiment, c'est quelque chose vers quoi on veut aller.
Parfait. Mélanie, on fait une courte pause, puis on va creuser un petit peu plus cet aspect-là de l'hébergement, parce que je pense qu'il y a des projets aussi en cours qu'on va vouloir présenter.
Parfait.
Chantal Doré ici au micro des Héros anonymes, de retour en studio avec Mélanie Gauthier de Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. Mélanie, on a parlé un peu dans le premier bloc qu'il semble y avoir là, une concentration des besoins vers une forme d'hébergement, parce que premièrement, s'il y a un besoin au niveau des dodos, ben, il faut être capable de les accueillir. Et d'un autre côté, chez les jeunes qui grandissent et qui auraient la possibilité de vivre seuls, ben, ça prend des installations aussi pour pouvoir le faire. Donc, quels sont vos projets en matière d'hébergement?
En fait, en ce moment, on est vraiment en évaluation des besoins, à savoir le nombre de personnes qui pourraient avoir de besoins. De plus, la région est scindée en deux chez nous, donc Vaudreuil et Soulanges. Mm-hmm. Donc, ce sont deux milieux de vie qui sont tout à fait différents les uns des autres. Donc, ça aussi, c'est une part à évaluer, à savoir, bon, est-ce qu'on veut que nos jeunes ne soient pas déracinés du tout de leur environnement? Donc, on regarde pour plus d'un hébergement, évidemment, mais on veut vraiment un milieu de vie où les différentes clientèles pourraient être mixées. Donc, on parle de jeunes lourdement handicapés, mais aussi de jeunes tout à fait autonomes qui ont juste besoin d'un peu de supervision pour y arriver. En ce moment, on dessert déjà des gens qui sont en appartement. C'est un peu ce qu'on fait. On fait du soutien à domicile. Par contre, il y en a certains qui ne pourraient pas vivre tout seuls, mais qui auraient la possibilité d'être dans un petit logis où est-ce qu'il y aurait une supervision. C'est vers ça qu'on veut aller, cette espèce de vie-là d'une petite communauté qui pourrait vraiment s'entraider. C'est vers ça qu'on veut aller.
Mais je comprends que c'est ça, c'est multiple, vos champs d'intervention, parce que déjà les types de clientèle, mais aussi je crois que le territoire, bon, on parlait qu'il y a des défis particuliers, rural et tout ça, c'est quand même, ça couvre quand même MRC 27 villes.
Absolument, donc c'est l'enjeu le plus important, parce que effectivement 27 villes, mais de façon rurale ou non, l'accès au transport aussi, c'est un enjeu très important dans notre petit coin de pays, donc ça aussi, ça devient... très difficile à jumeler. Donc, il faut trouver des solutions pour essayer que tout ce beau monde-là puisse avoir des services sans être pénalisé de par où est-ce qu'il habite.
Donc, ce serait quoi la prochaine étape pour réussir à avoir accès à ces hébergements-là, ces lieux d'hébergement?
Le financement. Le financement, évidemment. Ah, on a commencé à faire des petites démarches tranquillement, mais c'est mon plus grand défi des deux prochaines années, c'est vraiment d'aller pour pouvoir faire la promotion d'une nouvelle façon d'héberger les gens. On veut être novateur dans ce qu'on veut offrir. Donc, on est là-dedans. Là. C'est mon projet des deux prochaines années.
Quand on parle de novateur, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire différemment?
En fait, c'est un peu ça, c'est la mixité au niveau de l'hébergement. On parle d'appartements, oui, mais de petits studios aussi pour une clientèle qui, en ce moment... n'a de place qu'en CHSLD. Mais quand on parle d'un jeune de 21 ans lourdement handicapé, les parents ne veulent pas nécessairement qu'il aille en CHSLD. Donc, on veut offrir un milieu de vie avec les soins nécessaires, mais qui soit vraiment dans un milieu où il y a beaucoup de stimulation autre que demeurer à sa chambre ou, bon, regarder la télévision. On veut vraiment que ça soit un milieu de vie très, très actif. Donc oui, on va être très novateur de ce côté-là.
Dans quel contexte un jeune atterrit en CHSLD?
De ce côté-là, c'est vraiment quand on parle de jeunes polyhandicapés avec un niveau de soins très élevé. Donc,
les parents deviennent trop épuisés.
C'est très épuisant, en fait. Il y a des gens qui dorment pas ou dorment très peu la nuit, qui ont des problèmes de santé qui font qui est très difficile au niveau. Ils peuvent être gavés, langés, besoin d'un lève-personne. Donc, ça devient très physiquement difficile aussi pour les parents. Puis, à un moment donné, il y a un enjeu de physique pour les parents aussi de dire jusqu'où on pousse tout ça. Puis nos parents sont vieillissants.
Ouais.
Donc, il y a aussi ça, de voir les parents ne veulent pas nécessairement. Puis Vaudreuil, Soulanges, oui, mais on parle de la Montérégie-Ouest. Donc, quand un hébergement s'ouvre, ça peut être aussi sur de l'autre côté du territoire. Donc, on peut s'en aller à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vaudreuil-Soulanges, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quand même une grande distance. Donc, le jeune, le CHSLD, c'est vraiment en lien avec les handicaps multiples et très, très sévères. C'est vers ça qu'on va s'en aller parce que les milieux ne sont pas adaptés à leur vie pour le moment.
Oui, puis je comprends la notion de stimulation, puis le personnel qui œuvre dans ces CHSLD. Bon, on le sait, on en a beaucoup parlé, ils sont débordés, c'est extrêmement difficile. Donc, réussir, c'est pas le même type de il y a une base peut-être, mais c'est pas le même type de stimulation ou de soutien que ces jeunes-là ont besoin.
Effectivement, ils ont besoin d'une stimulation très différente, multisensorielle, ce qui n'est pas nécessairement à faire. On n'a pas le temps en CHSLD en ce moment, on l'a dit, et il manque de personnel, c'est difficile. Donc, si on ajoute, je vais dire, ce fardeau-là, ça devient plus difficile. Donc, ces jeunes-là seront, ils auront les soins de base, définitivement, mais par la suite, au niveau de la stimulation, il n'y en aura pas au niveau dont ils ont besoin.
OK. Et comment vous accompagnez les parents aussi là-dedans? Parce que je peux juste m'imaginer si j'étais mère d'un enfant qui a ce type de défi. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine culpabilité quand on réalise qu'on est plus capable là, de s'en occuper? Ou même, à la limite, même le répit. Peut-être des fois, on demande du répit quand déjà on aurait dû le demander le mois passé.
En fait, les parents, de façon générale, et je vais dire à 99% du temps, se sentent coupables. Se sentent coupables de la vie qu'ils ont, de la vie, du temps qu'ils peuvent donner à leurs enfants. Parfois, ils ont l'impression de les laisser un peu à eux-mêmes, même si ils étirent au maximum toutes les possibilités. Donc oui, ça, c'est très... On accompagne les parents vraiment plus intellectuellement à un peu voir que non, on n'est pas dans, on n'abandonne pas son enfant quand on décide qu'il doit changer de milieu de vie. On parle toujours de placer un enfant. Nous, on dit on ne place pas un enfant.
Ah, oui.
C'est la différence, c'est de dire on choisit à ce moment-là qu'on n'est plus en mesure de le faire, donc on n'a pas le choix. Puis c'est un peu ça qu'on veut laisser aux parents, c'est le choix de dire de le faire avant que tout ça arrive. Là. On veut vraiment être en amont puis dire, profitons de ce temps-là pour justement vivre de belles choses.
Je pense que tous les parents, grands-parents, l'écoutent, peu importe qu'ils aient des enfants qui présentent un handicap ou autre, comprennent cette notion-là de pression qu'on se met par un peu. Heureusement, dans le fond, vous êtes des partenaires familiaux.
Tout à fait. On essaie vraiment d'offrir aux parents aussi des petites formations de temps en temps ou de l'information gouvernementale ou sociale, communautaire. Donc, on essaie vraiment d'accompagner les parents de ce côté-là. C'est pas évident. Quand ils ont du répit, ils veulent pas nécessairement venir dans une rencontre, évidemment. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'offrir des temps, mais aussi avec des gardiens, gardiennes, des accompagnateurs pour pouvoir leur offrir ce temps-là à venir à des rencontres de parents pour en apprendre un petit peu plus.
Si on parle peut-être des cas, j'oserais dire plus légers, qui demandent moins d'adaptation, il y a tout le volet sensibilisation de la communauté en général. Donc, je regardais sur votre site Internet, il y a un calendrier de plein d'activités, même des voyages. Comment ça se passe?
En fait, on a différentes activités qui peuvent répondre aux différents types de clientèle qui viennent chez nous. Donc, oui, on a des sorties au restaurant. On a des activités qui vont se passer un peu plus à l'intérieur de nos locaux. On va aller à l'extérieur, on va jouer aux quilles. Ça, c'est le samedi quilles. C'est non négociable.
Je comprends que c'est un rituel installé que les gens
Absolument.
Apprécient.
Absolument. Donc, c'est vraiment une activité qui est faite là, avec grand bonheur. Et puis, il y a tout le volet un peu plus d'intégration au niveau des voyages. Effectivement, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. On avance dans le temps avec le nombre de journées qu'on passe en voyage aussi. Donc, là, on fait des 2, 3, 4 nuits à l'extérieur. Mais on essaie de faire vivre des expériences très différentes à nos membres. octobre. La dernière fois, ben c'est la semaine dernière, on est allé 4 jours à Tadoussac.
C'est tout le... Les baleines.
Absolument. Donc, on est allé en bateau, mais juste ça, c'est une expérience. On doit faire l'épicerie, tout le monde ensemble. On avait 10 participants, 3 accompagnateurs. Donc, ils doivent faire l'épicerie, travailler ensemble dans un hébergement. On loue un chalet, on fait la vaisselle, on fait le... Donc, on participe à la vie communautaire. Et puis, c'est toute une expérience. Puis, quand on va sur un bateau, par exemple, ben les gens vont avoir tendance à nous poser des questions, savoir « Ah, qu'est-ce que vous faites? » Ça se voit bien que, bon, il y a des difficultés, mais les gens sont curieux de plus en plus. On a de moins en moins de jugement, plus de questions. Puis moi, j'adore, je préfère me faire poser des questions. Donc, on est vraiment dans la sensibilisation de la communauté.
Est-ce qu'on pourrait penser que les enfants servent souvent de vecteur pour les parents parce qu'ils sont sans priori, ils vont poser des questions, même que des fois les parents se disent « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu'elle vient de poser, ma fille vient de poser cette question-là », mais ça amène justement à avoir des belles discussions.
Moi, j'utilise les enfants. Quand je vois que les enfants sont curieux, parce que je l'ai vécu dans mon quotidien aussi.
Oui, oui.
Donc, vraiment, puis, ben, je vais faire un parallèle. Anaïs était en mesure de dire ses difficultés. Donc, un enfant qui avait des questionnements, Anaïs s'approchait de cet enfant-là pour l'expliquer. Donc, je fais la même chose dans ma vie professionnelle. Donc, on voit les gens, on pose des questions. Je veux que les gens posent des questions parce que c'est la meilleure façon de comprendre un peu ce qui se passe avec notre clientèle, puis dans quelle mesure ils sont capables d'être, de faire partie d'une vie sociale très importante.
Oui. Donc, le message est lancé. Posez des questions. Posez des questions. Je crois que votre parcours de vie vous menait tout naturellement vers le défi qui est le vôtre. Peut-être une dernière question, là. Combien d'employés vous êtes, Mietz?
En fait, on est près d'une 50aine d'employés en ce moment. Donc, il y a les quand on parle de la période estivale, on va jusqu'à une 50aine d'employés. Sinon, on est une 40aine d'employés temps plein, temps partiel durant l'année. On est ouvert 7 jours par semaine. Donc, j'ai besoin de monde un peu partout. Une grande majorité d'éducateurs spécialisés ou étudiants en éducation spécialisée, mais un peu formation connexe aussi. Donc, on a une... près d'une 50aine d'employés, là.
Merveilleux. J'invite les gens à aller sur votre site Internet. Vous allez d'ailleurs découvrir le parcours d'une employée aux Jeux paralympiques, basketball en fauteuil roulant. C'est extraordinaire de voir tout ce que vous faites. On vous souhaite la meilleure des chances. Et s'il y a des bénévoles à l'écoute, 3 heures d'amitié, je pense que ça peut se placer dans notre agenda. Merci beaucoup, Mélanie Gauthier, directrice générale parrainage civique Vaudreuil-Soulanges.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré.
Pour cette deuxième partie des Héros Anonymes, on a parlé des jeunes qui sont aux prises avec des difficultés d'ordre intellectuel, d'ordre physique en première partie. Mais là, il y a des jeunes qui, eux, ont pas ce type de défi-là, mais en vivent d'autres qui rendent l'école pour eux vraiment complexe. Et ça fait en sorte qu'on comprend que ces jeunes-là ont besoin d'une école différente. Alors, je vous présente quelqu'un qui a mis sur pied une de ces écoles de rue qui font les choses différemment. C'est un plaisir de recevoir au Héros Anonyme Michel Lessard, directeur et fondateur de Je raccroche Rimouski. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Ça vient d'où, ce concept-là des écoles de rue?
Bien, en fait, ils sont comme un peu tous venus, les plus anciens sont venus au monde dans les années 90, comme, mettons, il y a la Dauphine ou il y a le Bon Dieu dans la rue à Montréal. Mais indépendamment de tout ça, nous, à Rimouski, là, ça a commencé en 2004, puis c'était un besoin du milieu, en fait, qu'on avait constaté, un besoin de qui a été nommé par le monde communautaire et le milieu scolaire pour des jeunes à qui le cadre scolaire fonctionnait pas. Puis quand ils revenaient du milieu communautaire, l'accompagnement était trop différent. Puis ils redécrochaient. Donc, on a travaillé à essayer de trouver un moyen d'éviter ce multi-décrochage-là en ligne, parce qu'à un moment donné, ça devient trop facile de, aussitôt qu'on rencontre un obstacle, on part. Donc, on voulait comme arrêter ça. Puis c'est là qu'est né le je raccroche, en fait. On a commencé à écrire qu'est-ce que ça devrait être, un maillon qui se trouve vraiment à être situé entre le monde scolaire et le monde communautaire. Puis ben c'est ça. Fait que est née l'école de rue du raccroche. Mais on s'est pas basé sur ce qui existait déjà parce qu'on n'a pas regardé ailleurs. Mm. On a vraiment focusé sur notre réalité.
Les besoins qui s'exprimaient chez vous.
Exact. Puis on a construit à partir de ça. Puis après, on a comme ouvert sur le reste du Québec. On a regardé qu'est-ce qui se faisait une fois qu'on avait commencé. Puis on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres qui existaient dans d'autres villes. Puis vraiment adapté à leur milieu, là. Il y en a que ça vient de boîtes de travail de rue, mettons, des organismes de travail de rue. Ils décident de faire un projet école de rue, puis là, ça devient comme autonome, mais ils sont quand même rattachés au domaine du travail de rue. Donc, il y a ça. Puis, il y a des écoles de rue un peu comme nous qui sont venues au monde et n'existent que pour être une école de rue.
J'aime bien ce que vous racontez, le maillon entre l'école et le milieu communautaire.
Oui, ben c'est ça. On avait vraiment remarqué, le milieu communautaire, c'est un milieu où c'est vraiment accueillant. On est très près de nos... on est très près de nos jeunes. On s'en occupe, on les accompagne. C'est beaucoup du 1-1. Donc, on est très, très présent. Alors que les milieux scolaires ne peuvent pas se permettre ce genre d'accompagnement-là pour diverses raisons, puis parce qu'ils ont beaucoup de monde, puis ils ont un cursus scolaire à suivre. Donc, c'est une autre réalité. Mais le clash, si on veut, entre le monde communautaire et le monde scolaire était beaucoup trop gros pour certains jeunes. Mm. Donc, c'est là qu'on s'insère. Donc, nous, on est plus... On a un cadre, on est très encadrant, mais c'est un encadrement qui est bienveillant. On n'est pas vraiment comme une famille où on met des limites, on fait tenir les limites, on y va avec l'autorité, mais une autorité saine, pas crasse, là, pas imposée, pas avec un rapport de force. Là. On y va vraiment avec un respect profond de nos jeunes, puis qu'on veut les faire avancer, puis c'est ça, c'est tout est fait de façon bienveillante, et on les accompagne dans toutes les démarches. Puis on se positionne aussi entre le jeune et toutes les problématiques. Parce que souvent, nous, c'est des 16-30 ans. Mm-hmm. Donc, on les accompagne dans la vie adulte. Donc, ils ont ce passage-là entre l'adolescence et la vie adulte. Donc, on va les accompagner là-dedans, en fait, de s'assurer que ça se passe bien avec les ministères, qu'ils comprennent bien c'est quoi leur nouveau devoir, leurs droits comme nouveau adulte, ça signifie quoi? Qu'est-ce qui va changer? Donc, on les accompagne vraiment dans tout ça, là, l'arrivée dans des appartements, comment gérer des budgets, parce que là, on couvre là, très, très large dans la vie du jeune.
Donc, on comprend 16 à 13 ans, et ce sont des jeunes donc qui n'ont pas complété leur secondaire 5.
C'est ça, exact. Donc, puis qui n'ont pas les préalables pour une formation professionnelle. Donc, avec nous, quand ils commencent avec nous, on va valider tranquillement c'est quoi vers quel domaine ils veulent aller. Après ça, on va faire de l'exploration professionnelle avec eux autres. Par exemple, je raccroche, qui est mon organisme, on se décline, là, il y a le volet scolaire, qui est un 14 heures semaine, qui font du français, des maths et de l'anglais. Pareil comme s'ils sont au régulier, c'est les enseignants du régulier qui viennent. Donc, il y a pareil. C'est pas une voie de garage ou une petite voie à côté ou ce qu'ils font de façon académique, ça sert à rien. Ils continuent à avancer, pareil comme s'ils sont réguliers. Puis, en plus de ça, nous, on ajoute, les après-midi, des ateliers. Donc, des ateliers de développement de la citoyenneté. Parce qu'on pense que quand un jeune décroche de l'école, souvent, ça va être un décrochage complet. C'est pas juste scolaire. Il va se désaffilier de la société, de plein d'affaires. Donc, nous, tranquillement, on le ramène. Donc, c'est un raccrochage qui est scolaire, qui est citoyen, qui est socio-professionnel. Donc, on le ramène tranquillement à comprendre dans quel monde il vit. Donc, il y a des ateliers sur l'histoire, il y a des ateliers sur la politique, l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde, les arts, la culture. On les amène voir des pièces de théâtre, de la danse contemporaine, rencontrer des artistes. On fait plein de projets avec eux. Donc, on essaie vraiment de stimuler. Puis, à travers tout ça, c'est de voir ça va être quoi les intérêts. Est-ce qu'il y en a qui vont comme « Ah, ça m'intéresse donc bien, ça, ce domaine-là. » Mais là, après ça, on va aller maxer là-dessus pour un processus d'orientation, quelque chose comme ça, parce qu'il y a de voir avec lui, bon, ça va être vers quel domaine tu vas aller.
Quand vous dites des jeunes qui n'ont pas les préalables pour la formation professionnelle, on parle de quel type de préalables?
En fait, c'est que c'est des préalables scolaires. Là. Nous, on a des jeunes qui peuvent être du niveau pré-secondaire. Donc, c'est du primaire. Ils sont au niveau primaire, même à 22, 23,
donc, l'écriture, le calcul, les sciences qui pourraient mener. Donc, on va le dire simplement, ils n'ont pas les notes pour accéder à la formation professionnelle?
Oui, c'est ça. Ils n'ont juste pas le niveau, le niveau secondaire. Donc, pour la plupart, ça prend un niveau, un secondaire 4. Il y en a que ça prend un secondaire 3 pour intégrer des formations professionnelles. Ça varie là, selon chaque formation. Ben, nous, en fait, avec nous, ils peuvent avancer académiquement, puis même aller chercher leur secondaire 5 s'ils ont besoin.
Mm-hmm.
Puis aller au cégep. Et on en a, ils sont allés au cégep très peu à l'université, mais quand même, on en a eu. Donc, c'est parce que c'est pas tous des jeunes qui ont des problématiques scolaires, en fait. On a des jeunes qui se sont juste enfargés dans le système. Tu sais, on en a qui ont des notes vraiment très, très fortes en académique. C'est juste qu'ils ont perdu l'espoir ou à quoi servait le système scolaire à un moment donné dans leur parcours pour X, Y, Z raisons. Puis, ils ont décroché. Ils se sont désaffiliés. Puis là, ils se sont mis à tanner tout le monde. Ils dérangeaient. Puis, donc, ils se sont fait classifier dans des troubles de comportement. Mm-hmm. C'est pas un trouble de comportement, c'est juste qu'ils se sont tannés. Donc, quand les jeunes reviennent, on réussit par miracle, parce qu'on n'est pas. On travaille beaucoup avec eux autres. Là. C'est eux autres qui finissent par la rallumer, mais la petite flamme où ils font ah oui, OK, c'est pour ça que j'aimais ça, l'école quand j'étais plus petit, puis tout ça. Donc, ben là, on capitalise là-dessus, puis on les amène vers
donc, on va stigmatiser le comportement qui est, au fond, un reflet d'une perte de sens.
Ben oui, c'est ça. Mm. Puis, souvent, c'est ça. C'est qu'on, nous, on s'attarde pas... quand les jeunes nous arrivent, ce qu'on leur dit souvent, c'est qu'on leur donne la page blanche.
Mm.
Donc, on n'ira pas voir son passé scolaire. Donc, toutes les retenues, les... troubles de comportement, les notes au dossier, ça nous intéresse pas, ça. On travaille avec des jeunes qui décident par eux-mêmes de revenir à l'école parce que c'est une démarche volontaire pour le jeune. Donc, on lui dit, on lui fait confiance puis on lui offre la possibilité de recommencer.
C'est bien dit. Mais qu'est-ce qui amène les jeunes à décrocher, justement? Vous avez évoqué l'une de ces raisons-là, mais plus largement, quelle autre raison on peut observer?
Ben, je pense qu'il y a des moments clés, en fait, dans tout le processus scolaire où ils sont plus fragiles. Le passage entre le primaire et le secondaire, c'est une zone qui est très fragile. Parce que, tu sais, au primaire, disons, ils pouvaient avoir, c'était tout le temps les mêmes jeunes qui étaient avec eux, puis l'enseignant les suivait tout le temps. Quand ils arrivent au secondaire, c'est dans une plus grosse école, plein de monde qu'ils connaissent pas.
Mm-hmm.
Ils changent de local puis ils n'ont pas nécessairement un enseignant là, qui est tout le temps avec eux.
Donc, c'est difficile pour tous, de toute façon, ce passage-là. Ouais. C'est un gros passage et on est tout à coup le plus jeune de l'école alors qu'avant, on était le plus vieux. C'est tout de même un passage important, comme vous le soulignez.
Oui, il y en a qui réagissent très fort à ça, qui ont besoin du lien pour apprendre.
Mm-hmm.
Parce que c'est une des clés. Là. Nous, si ça va bien avec eux, parce qu'on a des super de résultats, puis les jeunes avancent, puis ça va super bien avec les enseignants parce qu'on prend le temps de créer ce lien-là, puis ça prendra le temps que ça prendra pour le créer. Là. On ne presse pas les choses. Mais les jeunes, après, ils reviennent. Puis, tu sais, on veut vraiment qu'ils fassent la paix avec l'école. Il y en a qui sont blessés. Là, qui ont vraiment des blessures scolaires. Il y en a qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu le diagnostic qu'ils auraient dû avoir plus jeunes en trouble d'apprentissage, en dyslexie. Donc, ils ont toujours... Ils pensent qu'ils sont juste pas bons, qu'ils sont juste des incapables, puis tout ça. Puis là, rendu à 24 ans, ben là, on dit, ça serait peut-être le fun que tu ailles valider ça.
Mm-hmm.
On pense que peut-être, vu que tu mélanges certaines lettres, puis tout ça, puis là, il revient avec un diagnostic de TDAH, peu importe, là, tout ce qui est dyspraxie, dysphasie, puis tout ça. Puis là, il fait, ah, enfin, Je suis pas juste, je suis pas con, là.
Oui. C'est pas je suis pas un pas bon, puis je suis con, c'est vraiment.
Ouais.
Mais comme vous le disiez, là, dans une perspective d'accompagnement un à un, dans une classe, c'est plus quoi, 1 à 30?
Oui, c'est ça. Ouais. L'enseignant, il a comme pas le temps, mais nous, on a un groupe de 18, puis on est. T'sais, on est 6 dans l'équipe de travail. Il y a moi, la direction, là, qui fait moins de terrain avec les jeunes. Puis on a une coordination, mais sinon, c'est des intervenants qui sont planchés, qui sont toujours avec les jeunes dans les moments de vie. Les jeunes dînent avec nous, on va prendre des pauses avec eux autres, on fait plein de voyages. Cette semaine, lundi soir, par exemple, lundi après-midi, il y avait un atelier sur l'univers. Donc, tout ce qui est les théories de création de l'univers, on en parlait avec les jeunes, puis tout ça. Le soir, on est allé à Aster, qui est un centre d'observation d'étoiles dans notre coin.
Wow.
Donc, là, il y avait le télescope, puis il y avait, tu sais, une petite exposition, justement, sur tout ce qui était gravité, puis les étoiles, puis c'était volontaire, puis la moitié du groupe est venu volontairement de soir, puis ils ont trippé, là, ils ont full aimé ça. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est ils ont encore le goût d'apprendre. Là,
c'est la façon dont, c'est ça, c'est la façon dont on apprend, celle que le cursus scolaire donne à ce moment-là, qui ne convient pas à ce qu'ils sont.
C'est ça. Tu sais, des fois, c'est un peu décalé parce que ça fait une perte de sens. Là. Des fois, le secondaire, c'est super important. Là, puis il y a plein de matières qui passent là-dedans qui sont super importantes pour la suite. Mais de nos jeunes, des fois, ils se posent la question puis ils ne voient pas le sens. Puis, je comprends pas à quoi ça va me servir. Fait qu'à partir de ce moment-là, il y a comme un désintérêt. Puis, ben là, il tombe dans un engrenage de tranquillement de décrochage, là, où ça fait comme, bof, je sais pas pourquoi que moi je fais ça.
Mm.
Et que, tranquillement, il tasse tout le côté scolaire. Donc, on essaie, nous, de ramener le plaisir là-dedans.
Mm.
De ramener le fun d'apprendre, puis comment c'est important d'apprendre. Puis, parce qu'on vise aussi leur enfant à eux. T'sais, tranquillement, là, nos jeunes qu'on a, des 16-30 ans, il y en a que c'est des parents, il y en a qui vont être parents bientôt. Donc, ce qu'on veut, c'est que ces parents-là aient fait la paix avec l'école.
Mm. Puis
lorsque leur enfant va rentrer à l'école, bien, qu'il y ait un œil positif sur ça.
Soit capable de les accompagner.
Exactement.
Oui.
Soit capable d'aller dans les rencontres de parents qui ne prennent pas peur à cause des murs ou à cause de l'école en tant que telle. Donc, on travaille aussi là-dessus. Puis on va les accompagner. S'il y a des anciens jeunes qui, des fois, ils me demandent, j'ai une rencontre de parents, puis je suis vraiment pas à l'aise, puis ça me stresse, puis ben, je peux y aller avec eux.
Ah oui, vous pouvez aller jusque-là.
Oui, bien, on va les accompagner, nous autres, chez le médecin, chez le travailleur social. Mm. Tous leurs besoins, là, on va, avec eux autres, tout ce qui est question chômage, Emploi Québec, tout ce qui se passe dans leur vie, on va être là pour les accompagner. Donc, comme un parent, en fait.
Mm.
Donc, c'est un peu ça qu'on fait.
On va prendre une courte pause, Michel, puis ensuite, j'ai envie de creuser un petit peu plus là, le concept de développement de la citoyenneté, parce que j'ai l'impression peut-être que le cursus scolaire habituel aurait intérêt à développer ça un petit peu plus.
Parfait.
On revient. Dernier bloc des héros anonymes pour cette semaine. Nous poursuivons notre discussion avec le directeur et fondateur de Je raccroche Rimouski, Michel Lessard. Michel, on a parlé là, que le 30 heures semaine dans lequel le groupe de 18 jeunes auquel ils participent, il y a un 14 heures école, vraiment matière français, mathématiques, anglais, puis il y a un 16 heures d'atelier. Et vous avez utilisé deux fois le terme « désaffilié ». Pouvez-vous nous expliquer mieux qu'est-ce qu'on entend par « désaffilié » ?
Bien, c'est quand le jeune, il se retire comme de soit de son milieu familial ou dans le milieu qu'il vit, là, tout ce qui est de la société, puis tout ça. qui arrêtent complètement de s'intéresser à ça puis qui s'isolent. Puis ça, ça peut être ça, un retrait vraiment physique ou un retrait seulement comme psychologique là, où ils décident que c'est assez et puis ils ne s'informent plus sur rien, ils ne suivent plus ce qui se passe, il n'y a plus rien qui l'intéresse, il n'y a comme plus rien qui le touche. Puis ils se laissent guider par le courant.
Oui. Et c'est drôle parce que à l'école, avant, on avait le cours. Bon, on partira pas avec religion et morale, mais il reste qu'il y avait quelque chose dans du côté moral qui parle du développement personnel, du respect les uns les autres. Il y avait aussi le cours d'économie familiale. Or, ça a été, si je comprends bien, exclu du cursus scolaire, mais il y avait peut-être quelque chose d'important là-dedans.
Ben, moi, je pense que oui, parce qu'on les, tu sais, le cours d'économie familiale, on fait de la cuisine avec eux, donc ils ont des ateliers de cuisine. Tous les besoins qu'ils pourraient avoir, là, mettons qu'on aurait des jeunes qui disaient, hey, moi, là, la couture ou let's go, on va acheter une machine à coudre, on va leur montrer à coudre, là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis si c'est du tricot, compétence que j'ai pas nécessairement ou que personne n'a dans mon équipe, ben on a plein de parties. Il y a plein de personnes qui nous offrent de venir faire du bénévolat. Fait que,
moi, j'allais dire au niveau intergénérationnel, il y a sûrement des beaux maillages.
Absolument, puis on en fait, puis on le développe de plus en plus. Ça, nos jeunes préparent des activités, puis vont dans des résidences de personnes âgées, faire le lien ou aller travailler sur l'olfactif. Donc, ils apprennent aussi les exposés oraux, ils n'ont pas le choix. Fait qu'on y va de façon détournée. Puis il y a des super de beaux résultats avec les personnes âgées. Là. Là, nos jeunes sont. Il y en a beaucoup qui vivent de l'anxiété, mais on essaie nous autres de les pousser. Là. Parce qu'on veut qu'ils puissent se développer, puis c'est pas vrai que oui, là, c'est de l'anxiété, ça peut vraiment être pétrifiant comme symptôme, mais pour plusieurs, on essaie de les amener plus loin. Avec eux. C'est jamais qu'on va les mettre en danger. Là. Comme je disais, c'est une approche qui est vraiment bienveillante. Mais on va les amener à se dépasser un petit peu, à aller voir plus loin. Puis après ça, faire le retour avec comment tu t'es senti, t'es-tu si pire que ça? Mm-hmm. Si c'était si pire que ça, ben, la prochaine fois, on ne t'amènera pas là. C'est correct. T'sais.
Moi, je l'entends, la bienveillance dans votre voix. Et je lisais sur votre site Internet qu'on parle de moins en moins de délinquance chez les décrocheurs et de plus en plus, justement, d'anxiété et de santé mentale.
Oui, ouais, il y a beaucoup de... En effet, il y a eu une époque que c'était beaucoup de la délinquance, là, comme je disais, des petits bombes. C'est une façon d'intervenir qui est complètement différente. Parce que avant, c'était une clientèle qu'on pouvait plus pousser. On savait qu'il y avait du torque là, qui était capable d'en prendre, puis qui était proactif avec nous, puis il nous en donnait, puis il était capable de nous répondre. Alors que tranquillement, ça change, puis les blessures que les jeunes ressentent font qu'on peut pas pousser tant que ça. Donc, on faut respecter beaucoup plus ce rythme-là, puis c'est correct. Donc, mais on a à s'adapter. Puis après ça, c'est s'adapter à chaque jeune, les 18 jeunes dans le groupe. Et à chaque jour, faut savoir le jeune, sa limite est où. Donc, c'est beaucoup plus de l'attention, beaucoup plus d'observation de l'individu, du groupe, avant de faire des interventions, puis tout ça. Donc, il faut être vraiment plus alerte. Ouais, c'est ça, vraiment.
Je me pose la question comme ça, Michel. Une question, est-ce qu'il y a une différence générationnelle? Parce que, bon, on va parler, tu sais, des décrocheurs à l'époque, des boomers, des décrocheurs à l'époque, des X. Moi, je suis une X, puis effectivement, les décrocheurs, c'était plus des petits bums. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas aussi un reflet de la génération à laquelle ils appartiennent?
Ben, je pense que oui. Puis les technologies jouent sur beaucoup, là, énormément. Ça stresse. Être toujours connecté, puis être comme... c'est pas obligé, là, sauf que tu sais, faut toujours que ce qui se passe, puis si le téléphone sonne, faut que tu répondes. Cette espèce de stress-là, rien de mieux qu'aller passer une fin de semaine dans le bois déconnecté. Là, tu reviens, tu hey, on est donc bien bien. T'sais. Sauf que c'est usant, en fait. C'est vraiment usant, puis je pense que c'est pas nécessairement super pour la santé mentale de plusieurs jeunes. Donc, nous, par exemple, il y a un jeune, à un moment donné, qui, il y a quelques années, il nous avait dit, moi, je suis au régulier, en formation générale des adultes, Puis, je suis pas capable du tout de fonctionner. J'ai mon cellulaire. Il n'y a pas personne qui me gère. Donc, je fais que regarder mon cellulaire. Puis, tout seul, j'y arrive pas. Mm. On a fait, ben, viens-t'en avec nous autres. C'est que là, il est arrivé. Puis on a dit, ben là, on n'enlèvera pas juste le son cellulaire à lui. On va le faire pour tout le monde. Mm. Donc, on a enlevé tous les cellulaires. Là, c'est sûr que ça...
ça réagit au départ.
Ça réagit fort. Puis, on les mettait toutes là comme dans sur le bureau en avant, le bureau mm-hmm. de l'enseignant. Puis, tranquillement, les jeunes venaient nous voir et disaient, ouais, qu'on n'aille pas notre cellulaire, ça me permet d'avancer. Parce que sinon... Hein. Fait qu'ils le savent, là.
Il n'y a pas un projet de loi ou quelque chose qui va entrer d'ailleurs en justement pour faire en sorte que les jeunes... Puis moi, je me pose tout le temps la question pourquoi ça a été permis au départ.
Ouais,
je ne me verrais pas au travail répondre à mon Facebook pendant mes heures de travail.
Non, mais je pense qu'il y a eu un genre on ne veut pas mener ce combat-là. Là. Mm, je pense qu'au début, il y a eu ça, là.
Ouais.
Parce que la charge des enseignants est grosse. Ouais. On va se le dire. Puis je pense que c'est un bout qu'ils ont comme... Non, nous autres, on ne gère pas ça parce que là, c'est assez. Là. Mais nous, on l'a géré parce qu'on est une équipe et qu'on on est plusieurs avec eux autres. Donc, c'est beaucoup plus facile. Là. Aussitôt que nous, en équipe, on s'entend sur quelque chose, on l'impose puis c'est ça. Donc, c'est ça qu'on a fait. Là. Mais les résultats sont super, là, parce qu'ils font des examens, ça avance de façon académique, ça va super bien. Mais les cellulaires sont même pas sur le bureau, parce que même sur le bureau, il y a des études qui disent que ça dérange. Il faut vraiment qu'ils soient loin. Donc, nous, les jeunes, on a acheté des casques Bluetooth, là, des casques d'écoute. Donc, les jeunes ont chacun leur casque d'écoute, s'ils veulent. Puis leur cellulaire avec leur liste de lecture est plus loin. Ils n'ont pas accès, donc ils mettent ça dans une pochette, puis ils partent leur liste de lecture, puis ça va être ça pendant l'heure de ton français, par exemple. Fait que...
Là, on parle de musique, là.
Oui, ils écoutent la musique, puis c'est ça. Donc, c'est vraiment, là, on adapte, on essaie vraiment de s'adapter, puis on essaie vraiment de trouver les moyens les plus efficaces et efficients pour les jeunes.
Michel, comment vous partagez vos trucs? Parce que je lisais dans le dossier de recherche qu'il y a eu un forum Parlons éducation.
Oui, il y a eu un forum Parlons éducation. On a participé à ça, en fait. C'est voir comme un espèce d'état généraux sans en être un, là, genre qu'est-ce qui se passe dans notre milieu scolaire et pourquoi qu'on en est là. Là.
Oui.
Donc, il y a comme plein de monde qui ont participé, dont nous, on a participé, mais les organismes de lutte au décrochage là, du Roquelbe ont participé, le RERAC, qui est le regroupement des écoles de rue, en fait, parce qu'on est à peu près une dizaine d'écoles de rue au Québec. Là.
D'accord.
Tous différentes. Fait que c'est ça. Donc, on participe à ces choses-là, puis on s'entraide entre nous, puis on essaie de voir c'est quoi comment on peut adapter chaque pratique à nos... Fait que c'est beaucoup entre nous que ça se passe. Mais il commence à y avoir des études universitaires sur les impacts qu'on a. Donc, tranquillement, ça va sortir, ça, ces projets de recherche-là, sur la façon d'intervenir qu'on a avec les jeunes, pourquoi ça fonctionne avec eux.
Oui.
On a quand même 90% de taux de réussite là, après une année avec les jeunes.
Ça veut dire quoi, un taux de réussite?
C'est un jeune qui revient à l'école, qui continue avec nous ou qui s'en va sur le marché du travail. Donc, c'est un jeune qu'on retire, en fait, de l'aide sociale ou du système, là, puis qui devient, qui apporte au système, en fait. Donc,
se réaffilie.
Se réaffilie. Il retrouve un objectif, poursuit ses buts, puis tout ça. Fait qu'on en a plein de jeunes qui sont dans la formation professionnelle, qui travaillent sur la construction, qui travaillent en soudure, qui sont en mécanique, peu importe, là, on en a. Il y en a qui sont en architecture navale. T'sais, on en a dans tout plein de domaines. Puis, on est super contents. Ils reviennent nous voir après avec leurs enfants. Ils viennent nous représenter leurs enfants. Fait que tous les jeunes qu'on a eus en 20 ans, on les suit encore.
Ouais.
Il y a ça aussi. Là, on est comme des espèces de piliers. Quand ils ont des questions, ils viennent nous voir.
Moi, je disais ça, c'est vos enfants non bio, non biologiques.
Oui, c'est ça. C'est nos enfants non bio qu'on dit souvent parce que t'sais, ils nous écrivent, puis des fois ils vont nous écrire le soir, on répond pas toujours, ça le savent, mais il y a toujours la possibilité, puis ben moi vu que ça fait 20 ans, la coordonnatrice aussi, ben, on les connaît toutes.
Vos projets pour l'avenir, Michel, qu'est-ce qu'on vous souhaite en terminant?
Ben, on souhaite que ça continue. Ultimement, là, on me souhaiterait que ça ferme parce qu'il y a plus de chasseurs et que ça aille donc bien, bien dans le système scolaire. Oui. Ça, c'est ce que je. Mon rêve. Mm. Mon rêve, parce qu'un organisme communautaire, c'est pas supposé de vivre éternellement.
Je partage donc, votre réalité.
C'est ça, mais bon. Tant ce que c'est, avoir le financement puis avoir les moyens de nos ambitions puis un local où on va pouvoir, où les jeunes vont pouvoir s'identifier. Parce que là, on est comme barouettés de local en local encore. Mais avoir vraiment une place à nous où les jeunes vont pouvoir s'asseoir puis que ce soit leur maison. Leur place à eux, ça, moi, ça.
Je vous le souhaite, Michel, de tout cœur. Michel Lessard, directeur général fondateur de Je raccroche Rimouski. C'est encore une émission des héros anonymes qui, ma foi, a présenté des gens qui ont des parcours professionnels avec des grands cœurs, des gens inspirants. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous avez ressenti également. Si vous en connaissez des Michel Lessard et des Mélanie Gauthier, écrivez à notre recherchiste Catherine Bourderon. Vous allez trouver son adresse courriel sur la page de l'émission Les Héros Anonymes à vueetvoix.com. On remercie Catherine, on remercie Mathieu Tessier à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté. Et également, je suis ici chaque semaine avec vous. Je vous espère à l'écoute. La semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine.